mais uma vez, boa tarde a todos. Já nos tínhamos cumprimentado lá fora, mas agora, boa tarde em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros. Nós temos uma limitação no nosso horário, que tem a ver com o facto de termos uma sessão plenária a iniciar-se às 3 horas. De qualquer forma, julgo que é possível cumprirmos pelo menos aquilo que tínhamos previsto em relação à intervenção e, portanto, teríamos uma primeira intervenção da vossa parte, uma intervenção dos grupos parlamentares para que possam dizer o que atender e uma segunda vez de toma de palavra da vossa parte para poderem concluir. E, portanto, eu não sei quem é que vai dar início à vossa exposição, mas...
Muito boa tarde.
Carlos Carvalho, muito bem.
Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Chamo-me Carlos Carvalho, sou dirigente do Conselho, com outros colegas meus, dirigentes do Conselho Português para a Paz e a Cooperação, e nós estamos, e vamos facilitar, é evidente, que outra coisa não seria possível, a vida dos senhores deputados, para a expressão, então, portanto, que por isso eu vou ser muito breve. Quer dizer, portanto, nós, esta é uma iniciativa de solidariedade com o povo saraui, a República Árabe Saraui Democrática, o Saara Ocidental, como é conhecido, e aliás que os senhores deputados diversas vezes nos têm tido a amabilidade de nos receber para nas nossas tomadas de posição, e por isso vou ser muito breve. Temos connosco o Sr. Gilles de Véa, que é advogado responsável pela queixa no Tribunal Europeu. Eu já me apresentei, Manuela Pontes de Sousa, que é do Grupo de Trabalho de Solidariedade do Conselho Ocidental na CPPC, Ana Patrícia Souto e Sandra Benfica, da Direção do Movimento Democrático de Mulheres, e João Barreiros, do Departamento Internacional da CGTP. Onde é que estás? Também. Ok, está lá. E o José Oliveira e o Amílcar Campos, também da direção do Conselho Português para a Paz e a Cooperação. Dito isto, nós vamos ter alguns contactos já que foram estabelecidos com diversos grupos parlamentares, não com todos, porque, certamente por indisponibilidade, por outras coisas que não. Mas vamos ter hoje e amanhã contactos com outros grupos parlamentares, que será o prolongamento também deste nosso debate aqui. Eu não queria ocupar muito mais tempo, iria passar a palavra àquilo que é o nosso convidado e que também é uma pessoa muito importante nesta luta, no ponto de vista jurídico, desta tomada de posição do Tribunal Europeu, o senhor é deputado, o senhor Gilles de Véa, como já apresentei, iria-lhe passar, sem demora...
Tenho a palavra o Sr. Gilles de Véa, advogado responsável pela queixa efetuada junto do Tribunal Europeu.
A tradução, vou parler direct. Este senhor percebe português?
Sou deputado, vamos desculpar. Esqueci-me da lista do representante da Frente Polisária em Portugal, que a maior parte dos deputados já conhecem, a senhora Amado Fal. Desculpa, Manuel, está bem?
Je suis très heureux de cette invitation, je vous en remercie. Et je dois vous dire que je prends la parole, pas en mon nom personnel, mais comme avocat du Front Polisario, mandaté par lui pour obtenir l'application du droit européen sur ce territoire. C'est bon. Et, donc c'est un, je dirais trois choses, le temps est bref. La première, c'est que le Front Polisario est humainement un petit mouvement, une population peut-être de 300 000 personnes, et qu'il cherche à se faire entendre face à 28 États et aux puissants services du Conseil et de la Commission. On pense également, on le voit, que sur le plan médiatique, il est extrêmement difficile de se faire entendre. Et dans la phase actuelle, on voit qu'il y a tout un discours dominant qui marginalise absolument le Front Polisario. Donc, je dirais que nous le constatons, mais étant ici dans un Parlement, nous disons simplement attention à ce que chacun comprenne la force du droit. Et ce que nous avons fait une première fois en obtenant l'arrêt du 21 décembre, on le fera autant de fois qu'il est possible lors de la procédure devant la Cour. Donc c'était la Grande Chambre. Donc il n'y a pas de juridiction plus importante pour le droit européen. Il y avait face à nous le Conseil, représenté par le directeur de ses services juridiques, la Commission européenne, représentée par 5 ou 6 personnes, la France, le Portugal, qui a pris la parole, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et 2 cabinets d'avocats qui avaient été mandatés par un syndicat agricole marocain et qui faisaient donc entendre la voix du Maroc. Bon, nous avons gagné contre eux. Nous sommes très reconnaissants aux juges de ne pas se laisser impressionner par un rapport de force politique qui s'est mal construit au cours de l'histoire et d'avoir su dire le droit. Et dans ce que nous voyons actuellement, nous lançons une sonnette d'alarme en disant « Vous l'avez fait une fois, ne le refaites peut-être pas une deuxième, vu que nous voyons les tractations qui sont en cours. » Le deuxième point est d'expliquer en quelques mots, rassurez-vous, l'arrêt rendu le 21 décembre. Donc je précise que nous avons déjà fait beaucoup de documentation écrite sur le sujet et que je suis à votre disposition ou à celle de vos assistants pour vous donner toutes les explications que vous souhaiteriez. Nous avons fait un avis officiel du Front Polisario, qui est donc la lecture officielle du Front Polisario, et nous avons fait une étude de 20 pages qui a été transmise au secrétaire général de l'ONU et qui est visée dans le rapport général. Donc je fais par synthèse. Qu'est-ce que dit la Cour ? La Cour dit... Il y a 2 territoires distincts et séparés par une frontière historique établie et qui répondent à 2 souverainetés. Et elle ajoute, la question n'est pas de savoir si une activité économique faite sur le Sahara occidental par le Maroc serait favorable à la population ou ne serait pas favorable. La seule question, c'est est-ce que le représentant du peuple sahraoui a donné son accord, a donné son consentement. Et c'est le paragraphe 106 de l'arrêt. Donc on a une lecture du droit qui met fin à ce que nous appelons, ce qui est connu comme étant le paternalisme colonialiste, consistant à dire « moi français, moi espagnol, moi portugais, je sais bien ce qu'il faut faire pour les sahraouis et je vais le faire à leur place ». Et c'est également la fin de ce qui avait été, pour les connaisseurs du dossier, ils le savent bien, l'avis de M. Hans Corell, qui était le secrétaire juridique du secrétaire général de l'ONU, qui avait rendu un avis en 2002, en disant « le Maroc n'est pas souverain au Sahara occidental, mais il peut avoir une activité si cette activité est favorable à la population ». Et nous, nous nous opposions à cette lecture du droit en disant « il n'y a aucune souveraineté du Maroc, il y a 2 territoires et donc en aucun cas la puissance occupante ne peut avoir une activité favorable. » Et donc ce débat maintenant est tranché. Et il est tranché notamment vis-à-vis de tous les États européens et en particulier de l'État portugais qui plaidait à l'audience, qui a soutenu un argumentaire contraire et qui a perdu. Et donc nous sommes un peu inquiets, je dois dire, de voir ressortir politiquement des arguments qui ont été plaidés et rejetés juridiquement. Donc la seule analyse qui se pose maintenant, c'est si vous voulez avoir une activité sur le territoire du Sahara occidental, il faut demander l'autorisation du Front Polisario qui s'organise pour cela. Voilà la lecture de l'arrêt. Il n'y a plus de conditions à discuter. Ce qui se passe avec la présence européenne au Sahara occidental est analysé sous l'angle de la responsabilité, c'est-à-dire que la Cour a parfaitement noté, et on a eu des débats qui ont quand même duré toute la journée devant la Cour a parfaitement noté qu'il y avait une exploitation économique, mais elle ne sera jamais légale, elle ne rentrera jamais dans l'accord. C'est une question de voie de fait, c'est une question de responsabilité, et le Front Polisario est en mesure d'engager un procès pour tous les dommages causés, qui se chiffrerait donc de manière très élevée, mais qui n'est pas du tout la priorité maintenant. La priorité, et c'est le troisième point, je veux simplement dire que ce rappel de légalité, tel qu'il a été rédigé par la Cour, vaut pour tous les accords. Donc nous étions en légalité, donc il fallait attaquer un acte dans les deux mois. Donc nous avions attaqué l'accord de rehaussement, nous étions dans le délai. Et la Cour, finalement, écarte le recours juridique. À la fin, elle dit qu'elle écarte le recours du Front Polisario. Parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de condition à discuter. Vous avez deux territoires, Front Polisario, vous êtes sur le Sahara occidental, Maroc, vous êtes sur le Maroc. Donc le Front Polisario n'a pas à discuter d'un accord qui juridiquement ne s'applique que là. Et donc le recours est écarté, ce qui veut dire que ça joue pour l'agriculture, ça joue pour la pêche, ça joue pour la surveillance de l'espace aérien, ça joue pour les avions qui vont se poser là-bas, ça joue pour toute activité. C'est-à-dire que si j'ai une entreprise à Darla, je vais payer une taxe, j'ai un bail... Je marche sur un sol et j'ai une autorisation, tout ça m'est donné par le Maroc, et vis-à-vis des entreprises chinoises, indiennes ou saoudiennes, pourquoi pas, mais vis-à-vis des entreprises européennes, c'est désormais impossible parce que ça tombe sous le coup de l'arrêt. Voilà. Alors actuellement, nous travaillons sur deux points, et je refinis. Le premier... C'est ce que nous voyons actuellement, c'est-à-dire la rediscussion par le Conseil d'un mandat qui sera donné à la Commission pour refondre les accords en tenant compte de cette donnée. Voilà. C'est-à-dire que malgré, je dirais, la communication des tout premiers temps où on nous disait, voilà, le recours a été rejeté, il ne s'est rien passé, il est tout à fait clair. Et je pense qu'on a assez travaillé avec les services juridiques du Conseil, de la Commission de la France et des grands États. Ils sont tous persuadés qu'évidemment, il faut qu'ils revoient le système. La preuve, actuellement, ils se discutent un mandat du Conseil à la Commission pour renégocier. Nous serons extrêmement vigilants sur le contenu de ce mandat. Nous nous posons la question pratique de dire... Dans la mesure où la Cour pose pour principe qu'on ne peut jamais faire le bien des Sahraouis contre leur volonté, et que même si vous voulez faire un hôpital gratuit, vous devez leur demander l'autorisation, qu'est-ce qui est prévu dans le mandat pour prendre en compte l'avis du Front Polisario? Alors, la tentation qui est actuellement, qu'on comprend, c'est de créer des pseudo-organismes en disant, voilà, on va trouver 5 personnes, on va les appeler représentants du peuple sahraoui. Et puis comme ça, là, ils auront donné leur accord. Alors si la Commission veut, si le Conseil veut faire cela, il peut le faire, il est souverain. Mais si on veut faire un recours, on pourra le faire, on est souverain aussi pour faire les recours et pour les gagner à nouveau. Vu que le Front Polisario est sujet de droit international, il a signé des accords, il a signé un accord de paix avec le Maroc et la Mauritanie. Les frontières sont établies par des traités internationaux, il est reconnu par interlocuteur de l'ONU et il a surtout ratifié les conventions de Genève. Or, l'autorité helvétique, qui est gardien de la signature des conventions de Genève, n'acceptera jamais que les conventions de Genève puissent être signées par une autorité qui ne serait pas étatique. Voilà. Donc ça a été signé, ça a été notifié à tous les États et il y a un seul État qui a protesté, c'est le Maroc. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, plus brièvement... qui est simplement de dire nous allons maintenant nous occuper de mettre en application cet arrêt et donc nous allons engager une série de procédures. Le Front Polisario ne veut pas devenir un plaideur ou un procédurier, mais nous allons faire une série de procédures pour mettre en exécution ces principes. Et donc il y en a qui sont prévus en Espagne, il y en a qui vont aller en France dans le courant du mois, c'est des choses qui s'enclenchent. Mais déjà la semaine dernière, on a gagné une importante procédure à Cape Town, en Afrique du Sud, avec un arrêt qui vise, l'arrêt rendu le 21 décembre par la Cour de justice, et qui immobilise un tanker remplis de phosphate qui venaient de l'exploitation par une société, par l'Office marocain des mines, et qui s'est arrêté à Cape Town pour faire le plein de fuel, et qui ne peut pas repartir avec une première décision provisoire et une deuxième décision définitive disant vous êtes un autre territoire, vous n'avez aucune capacité pour en exploiter les ressources. Voilà. Donc on enclenche ce genre de choses, et je dois te dire que une victoire en justice n'est rien si derrière il n'y a pas tout un travail qui est fait, on s'en préoccupe. Je vous remercie.
Sim, muito obrigado. Nós estamos de facto pressionados com o tempo. Não sei se os senhores deputados querem dizer alguma coisa. O senhor deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Merci beaucoup pour la votre exposition très intéressante sur les processus judiciaires. Je vais parler en português parce que je ne suis pas dans le Parlement de Portugal. Mas agradecer naturalmente a iniciativa que tomaram em vir aqui ao Parlamento. O Partido Social Democrata estamos sempre muito interessados e receptivos a ouvir as opiniões acerca desta questão que envolve o povo Saui. Quero-vos, no entanto, transmitir qual é que é a nossa posição. Naturalmente que acompanhamos com muita atenção toda a questão. Eu próprio, que sou membro do grupo de amizade de Portugal com o Reino de Marrocos e que reúne deputados de ambos os países, de Portugal e de Marrocos, tenho acompanhado esta questão. Ainda ontem e antes de ontem, em Rabat, tive um encontro com o Sr. Presidente do Parlamento de Marrocos, o Sr. Habib Malki, e a questão também foi falada. Também com o Sr. Mohamed Molina, que penso que também devem conhecer, também estive reunido em Rabat, assim como também com o Sr. Bakori e o Alalone, que é das pessoas que mais têm acompanhado esta questão. Aquilo que vos quero dizer em relação à nossa posição do Partido Social Democrata é que acompanhamos com atenção, mas que nós somos pela integridade territorial do Reino de Marrocos. Portugal tem com o Marrocos uma relação de enorme proximidade, é um país de enorme importância para Portugal e, por aquilo que tenho acompanhado e visitado, vi muito satisfeito de Marrocos porque verifiquei que o país é um país cada vez mais democrático e cada vez respeita mais os direitos das pessoas. Foi-me dado a ver, foi-me dado a conhecer por os partidos, todos os que estão representados no Parlamento de Marrocos, têm consciência que nós em Portugal acompanhamos com atenção e acompanhamos mesmo com atenção àquilo que se passa, mas vim otimista quanto à evolução que se tem feito no Reino de Marrocos. Marrocos pertence agora novamente à União Africana, curiosamente também uma organização que a Frente Polisário também pertence, e portanto aquilo que, e finalizo com isso, que aquilo que o Partido Social Democrata deseja é que exista naturalmente, todos os processos judiciais podem ter a sua continuidade e devem ter, é por isso que existe o direito, que exista também o respeito pelos direitos do homem, sem dúvida, em todo o Reino de Marrocos, como em todo o mundo, inclusive naturalmente em Portugal, mas vos dizer que é sempre com imenso gosto que nós vos ouvimos. Et c'est merci à la monsieur Abogat que c'est ici avec nous. C'est très important la votre présence ici, parce que nous avons une attention très grande sur la question de le Sahara. Mais, comme j'ai dit, et je pense que votre traiteur, c'est fiel, nous accompagne la position de l'Europe du Maroc. C'est un pays très important pour nous. Et j'ai fait une visite ailleurs, à Rabat, avec beaucoup de réunions très importantes, qui abordaient aussi ce thème, mais j'ai vu un très optimiste con la évolution des droits de l'homme en Royaume du Maroc. Monsieur le Président, muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista.
Par une question d'économie de temps, moi je parlerai en français aussi, quand on s'entendra mieux. Tout d'abord, je veux vous remercier votre exposition par rapport aux dernières démarches au niveau judiciaire. Si j'ai bien compris, vous avez parlé de l'arrêt de la Cour de justice européenne, c'est ça? Et cet arrêt, donc, c'est quelque chose de très important et qui peut vraiment un peu changer la donnée de ce qui se passe sur le Sahara occidental. Moi, je ne vais pas m'allonger trop. Je vais seulement vous demander, vous poser quelques questions par rapport à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la Cour de justice européenne reconnaît qu'il y a deux souverainetés et que le Maroc exerce son autorité sur le territoire de Sahara occidental, c'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance d'une occupation. En gros, c'est ça. Et donc, à partir du moment qu'il y a cette reconnaissance, je veux savoir quelles seront les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que ça obligera l'Union européenne à changer son attitude, sa position envers le Royaume du Maroc, avec lequel, comme mon collègue l'a dit, le Portugal a des relations qui sont des relations vraiment excellentes. C'est vraiment une de nos priorités au niveau de la politique extérieure. Donc, ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est quelles seront les conséquences après cet arrêt de la Cour de justice européenne et comment ça se ferait entendre la voix du peuple sahraoui aux instances européennes, notamment au niveau du Conseil, et si serait possible, si vous pensez que ça sera possible, que la Commission change aussi ses démarches envers la relation au niveau politique et économique envers le Maroc. Merci beaucoup.
Sr. Deputado Michel Costa, no Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Começo por sobre. Bom, isto, não sei, às tantas vou misturar português com francês, comecei aqui a tomar umas notas em português, acabei em francês sem dar por ela. Portanto, vou tentar falar em português, porque senão, para aqui uma mélange que ninguém se entende. Portanto, começo por saudar os senhores representantes, portanto, do povo sahraoui e da Polisário. Não é segredo para ninguém que desde sempre fomos solidários com a vossa luta. E se bem que estejamos interessados num bom relacionamento, uma boa relação com o Marrocos no aspecto de comercial, diplomático, etc., isso não nos impede certamente de manter a nossa solidariedade, de vos manifestar e de, dentro daquilo que nos é possível, evidentemente, de vos acompanhar interessado na vossa luta, na luta dos vossos prisioneiros, que nós, temos acompanhado desde há bastante tempo que vamos acompanhando tudo isso, e naturalmente que não, nesse aspecto, estamos em absoluto desacordo com Marrocos, não é? Tal e qual como, se nós decidíssemos que íamos nós decidir o que se deve fazer ou não nas nossas antigas colónias, não é? Portanto, a coisa será pouco mais ou menos idêntica. Portanto, acho que não há muito mais a acrescentar, reiterar a nossa inteira solidariedade com o vosso povo, com a vossa luta. E desejar-vos um bom êxito, que a gente sabe que são coisas muito lentas, infelizmente, e entretanto muita gente vai morrendo e as coisas vão-se tirando, mas enfim, o melhor possível para vocês. Muito obrigada.
Bem, eu antes de retomar aqui as minhas funções de coordenação, queria também dizer alguma coisa em nome do grupo parlamentar do PCP, não só porque estamos pressionados com o tempo, mas porque julgo que também são conhecidas as posições do PCP, sintetizarei a nossa posição no agradecimento pela vossa vinda hoje, pelos elementos que aqui trouxeram, que eu julgo que são convergentes com a intervenção que temos tido na Assembleia da República, no sentido de associarmos a nossa intervenção, uma forma solidária, à luta do povo saharaui pela sua independência e pela sua autodeterminação e pelo exercício da sua soberania no território que corresponde ao Estado a que têm direito. E, portanto, remeto apenas para essas posições, agradecendo o contributo e, obviamente, disponibilizando a intervenção do grupo parlamentar do PCP naquilo que entenderem, que ela possa ser útil para os objetivos que partilhamos. E julgo que estes elementos que nos trazem hoje enriquecem também, do ponto de vista institucional, os elementos de defesa da posição do povo saharaui e, em particular, no quadro da Assembleia da República. Julgo que eles são elementos muito relevantes, até considerando as responsabilidades de fiscalização do governo por parte da Assembleia da República que nós aqui exercemos. Retomando as funções de coordenação desta reunião, queria apenas devolver-vos a palavra para dizer aquilo que entenderem. Pedia apenas que pudessem ser breves para podermos cumprir o horário da nossa reunião e queria deixar o apelo de que nos possam deixar a documentação que entenderem relevante e, inclusivamente, que possam considerar a atualização dos elementos que decorrem de todo este processo que entendam relevantes. Este aspecto que aqui foi referido relativamente a outras disputas judiciais e a outras causas que vão sendo intentadas em função de outros diferentes que vão surgindo a propósito das relações com outros países, o que é relevante e, portanto, outra atualização, outros elementos que surjam sobre este processo e que possam se atualizar, digamos assim, do ponto de vista institucional, a disputa que está em questão, julgo que era importante que a Assembleia da República pudesse também recebê-los no futuro. Mas, de qualquer forma, devolvo-vos a palavra, provavelmente ao Sr. Gil de Ver, para poder concluir.
Sim, j'ai donc répondu très rapidement. La documentation, c'est le plus simple. Tout ce que vous voulez, donc on se met en contact avec vos assistants et on peut remettre beaucoup de documentation, d'explications et tenir au courant des actions que nous faisons. Le deuxième point, je voudrais souligner que c'est un peuple qui lutte pour la décolonisation en tant que peuple inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU et qu'il fait sous l'angle du droit. La communauté européenne est une communauté de droit et donc j'attire l'attention sur le fait de ceux qui veulent s'opposer à ce mouvement qu'il s'agit quand même de raisonner par l'argument juridique, c'est-à-dire que l'arrêt de la Cour de justice, il est posé, il n'est pas prêt de changer demain. Voilà, donc là, il y a une mise au point qui sera nécessaire. Deuxième point, l'intégrité, respect de l'intégrité du Maroc, évidemment. Et le Front Polisario ne demande que la paix dans la région. Or, ne pas respecter l'intégrité du territoire est la première condition de la guerre. Mais est-ce que le Portugal reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? La réponse, elle est non. Donc, est-ce qu'il y a un seul État européen qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Elle est non. Est-ce qu'il y a un seul État au monde qui reconnaît la souveraineté? La réponse est non. Donc c'est ici qu'il y a un double discours dont je crois il faudra un jour ou l'autre sortir et qu'on en parle sous l'angle du droit sera bien mieux que sous l'angle par le moyen des armes, mais il n'est pas possible d'avoir un discours à Lisbonne, un discours à Paris et un autre à Rabat. Et tout le problème de cet arrêt, c'est que l'Europe signe un accord en disant « moi je signe l'accord parce que j'ai l'intégrité du Maroc qui est ici ». Et on voit la carte et ça s'arrête à la frontière historique. Je ferme les yeux et le lendemain, l'accord s'applique surtout le Sahara occidental, non pas comme l'application sur une zone occupée, mais avec l'application de la loi, les préfectures, le même régime juridique, c'est-à-dire sous un régime d'annexion. Donc les États pensent que parce que l'opinion politique est faible, qu'ils vont pouvoir maintenir encore ce double discours. Eh bien, ils vont pouvoir le maintenir, mais combien de temps? Voilà. Vu qu'ils vont prendre d'autres accords, nous ferons tomber ces autres accords. Troisième point, changer la politique. Qu'est-ce qui peut arriver à la suite de l'arrêt? Donc, évidemment, on aurait même tout l'après-midi, je n'aurais pas le temps de tout vous dire, mais je veux quand même essayer de répondre en deux minutes. Le premier point est que nous lançons une action à la fois positive et punitive sur les entreprises qui exercent, les entreprises européennes qui profitent ou qui bénéficient d'une activité au Sahara occidental. Et nous sommes en train de nous mettons en place à notre rythme, mais personne ne sera déçu sur le résultat. Une entreprise européenne est un sujet de droit européen entièrement soumise à l'arrêt de la Cour et nous pouvons maintenant utiliser l'arrêt de la Cour devant n'importe quel tribunal de l'Union européenne. Et nous allons commencer cet été, enfin nous l'avons déjà fait en Afrique du Sud avec le bateau, nous allons le faire maintenant avec le syndicat français, la Confédération Paysanne, pour un exportateur de fruits et légumes. Le procès aura lieu au mois de juillet sur les mêmes bases. Et on en fera un autre certainement en Espagne si on peut, voilà. Donc tout ça, ça va être fait. Mais, et donc c'est aspect punitif, on ne peut pas accepter que cet arrêt ne soit pas appliqué. Et les principes vont être maintenant pris par n'importe quel tribunal. On avait même lancé il y a quelque temps des procès beaucoup plus compliqués. On les retire tellement la situation s'est simplifiée maintenant. Donc je suis syndicat agricole et je vois une concurrence par des tomates. J'écris à Bruxelles, à la délégation du Front Polisario, est-ce que vous avez autorisé ces exportations? Ils vont me répondre non, je demanderai l'interdiction par application des paragraphes 104 et 106 de l'arrêt. Voilà. Et c'est un phénomène qui va généraliser. Et ensuite, comment tiendra l'économie quand les groupes seront tenus ? Aspect punitif, aspect constructif, nous mettons en place des procédures pour permettre de gérer cette souveraineté sur le sol marocain et sur la mer, avec quelque chose comme des délégations de services publics, avec des services d'État, mais on va se mettre en place, on a déjà des contacts, on a signé de premiers contrats avec des groupes en disant on n'a pas d'hostilité vis-à-vis des entreprises, on n'a aucune hostilité pour que le phosphate, pour que le pétrole soit exploité, mais on le fait, vous le faites sous votre nom, donc voilà le service qu'il faut contacter, c'est nous. Voilà. Et pour ce qui est des instances politiques, si elle reste ce que nous voyons maintenant sur refaire les contrats, refaire les traités avec un nouveau mandat de négociation qui marginalise le Front Polisario, ils ont le pouvoir politique pour le faire, mais nous aurons le pouvoir juridique pour faire tomber cela.
Okay. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho e ficamos a aguardar outros elementos que entendam entregar. Muito obrigado.
Quanto aos documentos, nós faremos chegar isso com aqui, tão rápido quanto possível. Obrigado.
Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Já nos tínhamos cumprimentado lá fora, mas agora, boa tarde em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros. Nós temos uma limitação no nosso horário, que tem a ver com o facto de termos uma sessão plenária a iniciar-se às 3 horas, de qualquer forma, julgo que é possível cumprirmos pelo menos aquilo que tínhamos previsto em relação à intervenção e, portanto, teríamos uma primeira intervenção da vossa parte, uma intervenção dos grupos parlamentares para que possam dizer o que atender e uma segunda vez de toma de palavra da vossa parte para poderem concluir. E, portanto, eu não sei quem é que vai dar início à vossa exposição, mas...
Muito boa tarde.
Carlos Carvalho, muito bem.
Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Chamo-me Carlos Carvalho, sou dirigente do Conselho, com outros colegas meus, dirigentes do Conselho Português para a Paz e a Cooperação, e nós estamos, e vamos facilitar, evidente, que outra coisa não seria possível, a vida dos senhores deputados, para a expressão. Então, portanto, por isso eu vou ser muito breve. Quer dizer, portanto, nós, esta é uma iniciativa de solidariedade com o povo saraui, a República Árabe Saraui Democrática, o Sahara Ocidental, como é conhecido. Aliás, que os senhores deputados, diversas vezes, nos têm tido a amabilidade de nos receber para nossas tomadas de posição e por isso vou ser muito breve. Temos connosco o senhor Gilles de Ver, que é advogado responsável pela queixa no Tribunal Europeu. Eu já me apresentei, Manuela Pontes de Sousa, que é do Grupo de Trabalho de Solidariedade do Conselho Ocidental na CPPC, Ana Patrícia Souto e Sandra Benfica, da Direção do Movimento Democrático de Mulheres, e João Barreiros, do Departamento Internacional da CGTP. Onde é que estás? Também. Ok, está lá. E o José Oliveira e o Amílcar Campos, também da direção do Conselho Português para a Paz e a Cooperação. Dito isto, nós vamos ter alguns contactos já que foram estabelecidos com diversos grupos parlamentares, não com todos, porque certamente por indisponibilidade, por outras coisas que não. Mas vamos ter hoje e amanhã contactos com outros grupos parlamentares, que será o prolongamento também deste nosso debate aqui. Eu não queria ocupar muito mais tempo, iria passar a palavra àquilo que é o nosso convidado e que também é uma pessoa muito importante nesta luta, no ponto de vista jurídico, desta tomada de posição do Tribunal Europeu, o senhor é deputado, Sr. Gil de Ver, como já apresentei, iria lhe passar, sem demora.
Então, tem a palavra o Sr. Gil de Ver, advogado responsável pela queixa efetuada junto do Tribunal Europeu.
La traduction, vous parlez en direct. Et je tiens pour ça portugais.
Sopa, vamos desculpar. Esqueci-me no meio da lista do representante da Frente Polisária em Portugal, que nos repete, a maior parte dos deputados já conhecem, a senhora Amado Fal. Desculpa-me, Amado, está bem?
Je suis très heureux de cette invitation, je vous en remercie. Et je dois vous dire que je prends la parole, pas en mon nom personnel, mais comme avocat du Front Polisario, mandaté par lui pour obtenir l'application du droit européen sur ce territoire. C'est bon. Et, donc c'est un, je dirais trois choses, le temps est bref. La première, c'est que le Front Polisario est humainement un petit mouvement, une population peut-être de 300 000 personnes, et qu'il cherche à se faire entendre face à 28 États et aux puissants services du Conseil et de la Commission. On pense également, on le voit, que sur le plan médiatique, il est extrêmement difficile de se faire entendre. Et dans la phase actuelle, on voit qu'il y a tout un discours dominant qui marginalise absolument le Front Polisario. Donc, je dirais que nous le constatons, mais étant ici dans un Parlement, nous disons simplement attention à ce que chacun comprenne la force du droit. Et ce que nous avons fait une première fois en obtenant l'arrêt du 21 décembre, on le fera autant de fois qu'il est possible lors de la procédure devant la Cour. Donc c'était la Grande Chambre. Donc il n'y a pas de juridiction plus importante pour le droit européen. Il y avait face à nous le Conseil, représenté par le directeur de ses services juridiques, la Commission européenne, représentée par 5 ou 6 personnes, la France, le Portugal, qui a pris la parole, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, et 2 cabinets d'avocats qui avaient été mandatés par un syndicat agricole marocain et qui faisaient donc entendre la voix du Maroc. Bon, nous avons gagné contre eux. Nous sommes très reconnaissants aux juges de ne pas se laisser impressionner par un rapport de force politique qui s'est mal construit au cours de l'histoire et d'avoir su dire le droit. Et dans ce que nous voyons actuellement, nous lançons une sonnette d'alarme en disant « Vous l'avez fait une fois, ne le refaites peut-être pas une deuxième, vu que nous voyons les tractations qui sont en cours. » Le deuxième point est d'expliquer en quelques mots, rassurez-vous, l'arrêt rendu le 21 décembre. Donc je précise que nous avons déjà fait beaucoup de documentation écrite sur le sujet et que je suis à votre disposition ou à celle de vos assistants pour vous donner toutes les explications que vous souhaiteriez. Nous avons fait un avis officiel du Front Polisario, qui est donc la lecture officielle du Front Polisario, et nous avons fait une étude de 20 pages qui a été transmise au secrétaire général de l'ONU et qui est visée dans le rapport général. Donc je fais par synthèse. Qu'est-ce que dit la Cour ? La Cour dit... Il y a 2 territoires distincts et séparés par une frontière historique établie et qui répondent à 2 souverainetés. Et elle ajoute, la question n'est pas de savoir si une activité économique faite sur le Sahara occidental par le Maroc serait favorable à la population ou ne serait pas favorable. La seule question, c'est est-ce que le représentant du peuple sahraoui a donné son accord, a donné son consentement. Et c'est le paragraphe 106 de l'arrêt. Donc on a une lecture du droit qui met fin à ce que nous appelons, ce qui est connu comme étant le paternalisme colonialiste, consistant à dire « moi français, moi espagnol, moi portugais, je sais bien ce qu'il faut faire pour les Sahraouis et je vais le faire à leur place ». Et c'est également la fin de ce qui avait été, pour les connaisseurs du dossier, ils le savent bien, l'avis de M. Hans Corell, qui était le secrétaire juridique du secrétaire général de l'ONU, qui avait rendu un avis en 2002, en disant « le Maroc n'est pas souverain au Sahara occidental, mais il peut avoir une activité si cette activité est favorable à la population ». Et nous, nous nous opposions à cette lecture du droit en disant « il n'y a aucune souveraineté du Maroc, il y a deux territoires et donc en aucun cas la puissance occupante ne peut avoir une activité favorable ». Et donc ce débat maintenant est tranché. Et il est tranché notamment vis-à-vis de tous les États européens et en particulier de l'État portugais qui plaidait à l'audience, qui a soutenu un argumentaire contraire et qui a perdu. Et donc nous sommes un peu inquiets, je dois dire, de voir ressortir politiquement des arguments qui ont été plaidés et rejetés juridiquement. Donc la seule analyse qui se pose maintenant, c'est si vous voulez avoir une activité sur le territoire du Sahara occidental, il faut demander l'autorisation du Front Polisario qui s'organise pour cela. Voilà la lecture de l'arrêt. Il n'y a plus de conditions à discuter. Ce qui se passe avec la présence européenne au Sahara occidental est analysé sous l'angle de la responsabilité, c'est-à-dire que la Cour a parfaitement noté, et on a eu des débats qui ont quand même duré toute la journée devant la Cour a parfaitement noté qu'il y avait une exploitation économique, mais elle ne sera jamais légale, elle ne rentrera jamais dans l'accord. C'est une question de voie de fait, c'est une question de responsabilité, et le Front Polisario est en mesure d'engager un procès pour tous les dommages causés, qui se chiffrerait donc de manière très élevée, mais qui n'est pas du tout la priorité maintenant. La priorité, et c'est le troisième point, je veux simplement dire que ce rappel de légalité, tel qu'il a été rédigé par la Cour, vaut pour tous les accords. Donc nous étions en légalité, donc il fallait attaquer un acte dans les 2 mois. Donc nous avions attaqué l'accord de rehaussement, nous étions dans le délai. Et la Cour, finalement, écarte le recours. À la fin, elle dit qu'elle écarte le recours du Front Polisario, parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de condition à discuter. Vous avez 2 territoires, Front Polisario, vous êtes sur le Sahara occidental, Maroc, vous êtes sur le Maroc. Donc le Front Polisario n'a pas à discuter d'un accord qui juridiquement ne s'applique que là. Et donc le recours est écarté, ce qui veut dire que ça joue pour l'agriculture, ça joue pour la pêche, ça joue pour la surveillance de l'espace aérien, ça joue pour les avions qui vont se poser là-bas, ça joue pour toute activité, c'est-à-dire que si j'ai une entreprise à Darla, je vais payer une taxe, j'ai un bail, je marche sur un sol et j'ai une autorisation, tout ça m'est donné par le Maroc, et vis-à-vis des entreprises chinoises, indiennes ou saoudiennes, pourquoi pas, mais vis-à-vis des entreprises européennes, c'est désormais impossible parce que ça tombe sous le coup de l'arrêt. Voilà. Alors actuellement, nous travaillons sur 2 points, et je refinis. Le premier... c'est ce que nous voyons actuellement, c'est-à-dire la rediscussion par le Conseil d'un mandat qui sera donné à la Commission pour refondre les accords en tenant compte de cette donnée. Voilà. C'est-à-dire que malgré, je dirais, la communication des tout premiers temps où on nous disait « voilà, le recours a été rejeté, il ne s'est rien passé », il est tout à fait clair. Et je pense qu'on a assez travaillé avec les services juridiques du Conseil, de la Commission de la France et des grands États. Ils sont tous persuadés qu'évidemment, il faut qu'ils revoient le système. La preuve, actuellement, ils se discutent un mandat du Conseil à la Commission pour renégocier. Nous serons extrêmement vigilants sur le contenu de ce mandat. Nous nous posons la question pratique de dire, dans la mesure où la Cour pose pour principe qu'on ne peut jamais faire le bien des Sahraouis contre leur volonté, et que même si vous voulez faire un hôpital gratuit, vous devez leur demander l'autorisation, qu'est-ce qui est prévu dans le mandat pour prendre en compte l'avis du Front Polisario? Alors, la tentation qui est actuellement, qu'on comprend, c'est de créer des pseudo-organismes en disant, voilà, on va trouver 5 personnes, on va les appeler représentants du peuple sahraoui, et puis comme ça, là, ils auront donné leur accord. Alors, si la Commission veut, si le Conseil veut faire cela, il peut le faire, il est souverain. Mais si on veut faire un recours, on pourra le faire, on est souvent aussi pour faire les recours et pour les gagner à nouveau, vu que le Front Polisario est sujet de droit international. Il a signé un accord de paix avec le Maroc et la Mauritanie. Les frontières sont établies par des traités internationaux. Il est reconnu par interlocuteur de l'ONU et il a surtout ratifié les conventions de Genève. Or, l'autorité helvétique, qui est gardien de la signature des conventions de Genève, n'acceptera jamais que les conventions de Genève puissent être signées par une autorité qui ne serait pas étatique. Voilà. Donc ça a été signé, ça a été notifié à tous les États, et il y a un seul État qui a protesté, c'est le Maroc. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, plus brièvement, qui est simplement de dire, nous allons maintenant nous occuper de mettre en application cet arrêt. Et donc, nous allons engager une série de procédures. Le Front Polisario ne veut pas devenir un plaideur ou un procédurier, mais nous allons faire une série de procédures pour mettre en exécution ces principes. Et donc, il y en a qui sont prévus en Espagne, il y en a qui vont aller en France dans le courant du mois. C'est des choses qui s'enclenchent. Mais déjà, la semaine dernière, on a gagné une importante procédure à Cape Town, en Afrique du Sud, avec un arrêt qui vise, l'arrêt rendu le 21 décembre par la Cour de justice, et qui immobilise un tanker rempli de phosphate qui venait de l'exploitation par une société, par l'Office marocain des mines, et qui s'est arrêté à Cape Town pour faire le plein de fuel, et qui ne peut pas repartir, avec une première décision provisoire et une deuxième décision définitive disant vous êtes un autre territoire, vous n'avez aucune capacité pour en exploiter les ressources. Voilà. Donc on enclenche ce genre de choses, et je dois te dire que une victoire en justice n'est rien si derrière il n'y a pas tout un travail qui est fait. On s'en préoccupe. Je vous remercie.
Sim, muito obrigado. Nós estamos de facto pressionados com o tempo. Não sei se os senhores deputados querem dizer alguma coisa. O senhor deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Merci beaucoup pour la votre exposition très intéressante sur les procès judiciaires. Je vais parler en português parce que je ne suis pas dans le Parlement de Portugal. Mas agradecer naturalmente a iniciativa que tomaram em vir aqui ao Parlamento. O Partido Social Democrata estamos sempre muito interessados e receptivos a ouvir as opiniões acerca desta questão que envolve o povo Saui. Quero-vos, no entanto, transmitir qual é que é a nossa posição. Naturalmente que acompanhamos com muita atenção toda a questão. Eu próprio, que sou membro do grupo de amizade de Portugal com o Reino de Marrocos e que reúne deputados de ambos os países, de Portugal e de Marrocos, tenho acompanhado esta questão. Ainda ontem e antes de ontem, em Rabat, tive um encontro com o Sr. Presidente do Parlamento de Marrocos, o Sr. Habib Malki, e a questão também foi falada. Também com o Sr. Mohamed Molina, que penso que também devem conhecer, também estive reunido em Rabat, assim como também com o Sr. Bakori e o Alalone, que é das pessoas que mais têm acompanhado esta questão. Aquilo que vos quero dizer em relação à nossa posição do Partido Social Democrata é que acompanhamos com atenção, mas que nós somos pela integridade territorial do Reino de Marrocos. Portugal tem com o Marrocos uma relação de enorme proximidade, é um país de enorme importância para Portugal e, por aquilo que tenho acompanhado e visitado, vi muito satisfeito de Marrocos porque verifiquei que o país é um país cada vez mais democrático e cada vez respeita mais os direitos das pessoas. Foi-me dado a ver, foi-me dado a conhecer por os partidos, todos os que estão representados no Parlamento de Marrocos, têm consciência que nós em Portugal acompanhamos com atenção e acompanhamos mesmo com atenção aquilo que se passa, mas vim otimista quanto à evolução que se tem feito no Reino de Marrocos. Marrocos pertence agora novamente à União Africana, curiosamente também uma organização que a Frente Polisario também pertence, e portanto aquilo que, e finalizo com isso, que aquilo que o Partido Social Democrata deseja é que exista naturalmente, todos os processos judiciais podem ter a sua continuidade e devem ter, é por isso que existe o direito, que exista também o respeito pelos direitos do homem, sem dúvida, em todo o Reino de Marrocos, como em todo o mundo, inclusive naturalmente em Portugal, mas vos dizer que é sempre com imenso gosto que nós vos ouvimos e c'est merci à le monsieur Abogat que c'est ici avec nous. C'est très important la votre présence ici parce que nous avons une attention très grande sur la question de le Sahara, mais comme j'ai dit, et je pense que votre traiteur c'est fiel, nous accompagne la position de l'Europe du Maroc. C'est un pays très important pour nous et j'ai fait là, une visite ailleurs à Rabat avec beaucoup de réunions très importantes qui abordaient aussi ce thème, mais j'ai vu un très optimiste con la évolution des droits de l'homme en Royaume du Maroc. Monsieur le Président, muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista.
Par une question d'économie de temps, moi je parlerai en français aussi, quand on s'entendra mieux. Tout d'abord, je veux vous remercier votre exposition par rapport aux dernières démarches au niveau judiciaire. Si j'ai bien compris, vous avez parlé de l'arrêt de la Cour de justice européenne, c'est ça? Et cet arrêt, donc, c'est quelque chose de très important et qui peut vraiment un peu changer la donnée de ce qui se passe sur le Sahara occidental. Moi, je ne vais pas m'allonger trop, je vais seulement vous poser quelques questions par rapport à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la Cour de justice européenne reconnaît qu'il y a deux souverainetés et que le Maroc exerce son autorité sur le territoire du Sahara occidental, c'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance d'une occupation. En gros, c'est ça. Et donc, à partir du moment qu'il y a cette reconnaissance, je veux savoir quelles seront les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que ça obligera l'Union européenne à changer son attitude, sa position envers le Royaume du Maroc, avec lequel, comme mon collègue l'a dit, le Portugal a des relations qui sont des relations vraiment excellentes. C'est vraiment une de nos priorités au niveau de la politique extérieure. Donc, ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est quelles seront les conséquences après cet arrêt de la Cour de justice européenne et comment ça se ferait entendre la voix du peuple sahraoui aux instances européennes, notamment au niveau du Conseil, et si serait possible, si vous pensez que ça sera possible, que la Commission change aussi ses démarches envers la relation au niveau politique et économique envers le Maroc. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, Monsieur de Costa, du Bloc d'Esquerda.
Muito obrigada. Começo por seu. Bom, isto, não sei, às tantas vou misturar português com francês, comecei aqui a tomar umas notas em português, acabei em francês sem dar por ela. Portanto, vou tentar falar em português, porque senão, para aqui uma mélange que ninguém se entende. Portanto, começo por saudar os senhores representantes, portanto, do povo sahraoui e da Polisário. Não é segredo para ninguém que desde sempre fomos solidários com a vossa luta e se bem que estejamos interessados num bom relacionamento, uma boa relação com o Marrocos no aspecto de comercial, diplomático, etc., isso não nos impede certamente de manter a nossa solidariedade, de vos manifestar e de dentro daquilo que nos é possível, evidentemente, de vos acompanhar, interessado na vossa luta, na luta dos vossos prisioneiros, que nós temos acompanhado desde há bastante tempo que vamos acompanhando tudo isso, e naturalmente que não, nesse aspecto estamos em absoluto desacordo com o Marrocos, não é? Tal e qual como, se nós decidíssemos que íamos nós decidir o que se deve fazer ou não nas nossas antigas colónias, não é? Portanto, a coisa será pouco mais ou menos idêntica. Portanto, acho que não há muito mais a acrescentar, reiterar a nossa inteira solidariedade com o vosso povo, com a vossa luta. E desejar-vos um bom êxito, que a gente sabe que são coisas muito lentas, infelizmente, e entretanto muita gente vai morrendo e as coisas vão-se tirando, mas enfim, o melhor possível para vocês. Muito obrigada.
Bem, eu antes de retomar aqui as minhas funções de coordenação, queria também dizer alguma coisa em nome do grupo parlamentar do PCP, não só por estarmos pressionados com o tempo, mas porque julgo que também são conhecidas as posições do PCP, sintetizarei a nossa posição no agradecimento pela vossa vinda hoje, pelos elementos que aqui trouxeram, que eu julgo que são convergentes com a intervenção que temos tido na Assembleia da República, no sentido de associarmos a nossa intervenção, uma forma solidária, à luta do povo saharaui pela sua independência e pela sua autodeterminação e pelo exercício da sua soberania no território que corresponde ao Estado a que têm direito, e, portanto, remeto apenas para essas posições, agradecendo o contributo e, obviamente, disponibilizando a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP naquilo que entenderem, que ela possa ser útil para os objetivos que partilhamos. E julgo que estes elementos que nos trazem hoje enriquecem também, do ponto de vista institucional, os elementos de defesa da posição do povo saharaui e, em particular, no quadro da Assembleia da República. Julgo que eles são elementos muito relevantes, até considerando as responsabilidades de fiscalização do Governo por parte da Assembleia da República que nós aqui exercemos. Retomando as funções de coordenação desta reunião, queria apenas devolver-vos a palavra para dizer aquilo que entenderem. Pedia apenas que pudessem ser breves para podermos cumprir o horário da nossa reunião e queria deixar o apelo de que nos possam deixar a documentação que entenderem relevante e, inclusivamente, que possam considerar a atualização dos elementos que decorrem de todo este processo que entendam relevantes. Este aspecto que aqui foi referido relativamente a outras disputas judiciais e a outras causas que vão sendo intentadas em função de outros diferentes que vão surgindo a propósito das relações com outros países, o que é relevante e portanto, outra atualização, outros elementos que surjam sobre este processo e que possam se atualizar, digamos assim, do ponto de vista institucional, a disputa que está em questão, julgo que era importante que a Assembleia da República pudesse também recebê-los no futuro. De qualquer forma, devolvo-vos a palavra, provavelmente ao Sr. Gil Daver, para poder concluir.
Sim, je donc réponds très rapidement. La documentation, c'est le plus simple. Tout ce que vous voulez, donc on se met en contact avec vos assistants et on peut remettre beaucoup de documentation, d'explications et tenir au courant des actions que nous faisons. Le deuxième point, je voudrais souligner que c'est un peuple qui lutte pour la décolonisation en tant que peuple inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU et qu'il fait sous l'angle du droit. La communauté européenne est une communauté de droit et donc j'attire l'attention sur le fait de ceux qui veulent s'opposer à ce mouvement qu'il s'agit quand même de raisonner par l'argument juridique, c'est-à-dire que l'arrêt de la Cour de justice, il est posé, il n'est pas prêt de changer demain. Voilà, donc là, il y a une mise au point qui sera nécessaire. Deuxième point, l'intégrité, respect de l'intégrité du Maroc, évidemment. Et le Front Polisario ne demande que la paix dans la région. Or, ne pas respecter l'intégrité du territoire est la première condition de la guerre. Mais est-ce que le Portugal reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? La réponse, elle est non. Donc, est-ce qu'il y a un seul État européen qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Elle est non. Est-ce qu'il y a un seul État au monde qui reconnaît la souveraineté? La réponse est non. Donc c'est ici qu'il y a un double discours dont je crois il faudra un jour ou l'autre sortir et qu'on en parle sous l'angle du droit sera bien mieux que sous l'angle par le moyen des armes, mais il n'est pas possible d'avoir un discours à Lisbonne, un discours à Paris et un autre à Rabat. Et tout le problème de cet arrêt, c'est que l'Europe signe un accord en disant « moi je signe l'accord parce que j'ai l'intégrité du Maroc qui est ici ». Et on voit la carte et ça s'arrête à la frontière historique. Je ferme les yeux et le lendemain, l'accord s'applique sur tout le Sahara occidental, non pas comme l'application sur une zone occupée, mais avec l'application de la loi, les préfectures, le même régime juridique, c'est-à-dire sous un régime d'annexion. Donc les États pensent que parce que l'opinion politique est faible, qu'ils vont pouvoir maintenir encore ce double discours. Eh bien, ils vont pouvoir le maintenir, mais combien de temps? Voilà. Vu qu'ils vont prendre d'autres accords, nous ferons tomber ces autres accords. Troisième point, changer la politique. Qu'est-ce qui peut arriver à la suite de l'arrêt? Donc, évidemment, on aurait même tout l'après-midi, que je n'aurais pas le temps de tout vous dire, mais je veux quand même essayer de répondre en deux minutes. Le premier point est que nous lançons une action à la fois positive et punitive sur les entreprises qui exercent, les entreprises européennes qui profitent ou qui bénéficient d'une activité au Sahara occidental. Et nous sommes en train de nous mettons en place à notre rythme, mais personne ne sera déçu sur le résultat. Une entreprise européenne est un sujet de droit européen entièrement soumise à l'arrêt de la Cour, et nous pouvons maintenant utiliser l'arrêt de la Cour devant n'importe quel tribunal de l'Union européenne. Et nous allons commencer cet été, enfin nous l'avons déjà fait en Afrique du Sud avec le bateau, nous allons le faire maintenant avec le syndicat français, la Confédération paysanne, pour un exportateur de fruits et légumes. Le procès aura lieu au mois de juillet sur les mêmes bases. Et on en fera un autre certainement en Espagne si on peut, voilà. Donc tout ça, ça va être fait, mais et donc c'est aspect punitif. On ne peut pas accepter que cet arrêt ne soit pas appliqué, et les principes vont être maintenant pris par n'importe quel tribunal. On avait même lancé il y a quelque temps des procès beaucoup plus compliqués. On les retire tellement la situation s'est simplifiée maintenant. Donc je suis syndicat agricole et je vois une concurrence par des tomates. J'écris à Bruxelles, à la délégation du Front Polisario, est-ce que vous avez autorisé ces exportations? Ils vont me répondre non. Je demanderai l'interdiction par application des paragraphes 104 et 106 de l'arrêt. Voilà. Et c'est un phénomène qui va généraliser. Et ensuite, comment tiendra l'économie quand les groupes seront tenus? Aspect punitif, aspect constructif, nous mettons en place des procédures pour permettre de gérer cette souveraineté sur le sol marocain et sur la mer, avec quelque chose comme des délégations de services publics, avec des services d'État, mais on va se mettre en place, on a déjà des contacts, on a signé de premiers contrats avec des groupes en disant on n'a pas d'hostilité vis-à-vis des entreprises, on n'a aucune hostilité pour que le phosphate, pour que le pétrole soit exploité, mais on le fait, vous le faites sous votre nom, donc voilà le service qu'il faut contacter, c'est nous. Voilà. Et pour ce qui est des instances politiques, si elle reste ce que nous voyons maintenant sur refaire les contrats, refaire les traités avec un nouveau mandat de négociation qui marginalise le Front Polisario, ils ont le pouvoir politique pour le faire, mais nous aurons le pouvoir juridique pour faire tomber cela.
Okay. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho, e ficamos a aguardar outros elementos que entendam entregar. Muito obrigado.
Quanto aos documentos, nós faremos chegar isso com aqui, tão rápido quanto possível. Obrigado.